Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de sortir du loft pour débuter la semaine en votre compagnie. C'est la première titularisation de la saison pour moi. Je vous rassure, la comparaison avec Kylian Mbappé, elle s'arrête très vite. La vedette du PSG est bien évidemment unique. Elle l'a encore prouvé ce week-end contre Lens. Paris est lancé, Kylian est pardonné, les supporters sont rassurés, mais nos consultants sont échaudés. L'enflammade de la fin août sur le PSG, c'est un grand classique de Radio Foot, un peu comme la présence d'Hervé Penaud. À cette table, bonjour Hervé.
Bonjour à tout le monde, mais quel plaisir d'être en votre compagnie, vous ne pouvez pas vous imaginer.
D'autant que vous êtes là en août, on s'enflamme sur vous en août, mais vous ne décevez pas une fois que l'hiver ou le printemps arrive.
Ah mais moi je crois que je suis bon d'août à juin.
D'août 2010 pour la première de l'émission
à juin
2024, bien évidemment. Paris lancé, mais toujours devancé par un certain Olympique Marseillais en Ligue 1. Bonjour mon cher Marc Libra.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
On
j'ai
dit
bien
merci
fait de venir.
À Mbemba, on dit merci à Ismaël Assar, on dit merci au football africain comme souvent.
Bah oui, comme beaucoup à Marseille, bien sûr. Je me suis régalé à un match de folie, mais j'ai pas eu de match de Paris, peut-être vous allez m'en dire plus. Je suis pas au courant.
Vous savez qui joue quand même, qui est une équipe Paris.
Non, je sais pas. Il est pas parti,
non, ça vous dit rien.
Putain, on me l'avait pas dit. Je suis ravi.
Allez, de l'Angleterre et du sérieux également au sommaire, qui dit Première Ligue, dit évidemment Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Newcastle qui perd un peu le nord dans le championnat d'Angleterre. Le nouveau venu dans le Big Four est plutôt dans un gros ventre mou en ce début de saison. Vous nous direz ce qu'il faut penser de ce Newcastle version saoudienne tout à l'heure. En attendant, nous allons accueillir un invité exceptionnel, Ivan Wanji, joueur champion de CCFoot. Bonjour Ivan.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous. Le CCFoot, on le rappelle, c'est le football pour les malvoyants et les non-voyants. Vous êtes membre de l'équipe de France, double champion d'Europe, notamment à votre palmarès, si je puis me permettre, excusez du peu. Vous êtes également ambassadeur des JO et des Jeux Paralympiques de Paris.
C'est ça, je suis ambassadeur et du coup à ce titre j'interviens énormément pour sensibiliser sur le handicap et aussi donner de l'espoir aux jeunes et leur dire que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap et la différence doit être une source de rassemblement.
Eh bien écoutez, c'est un magnifique message et on est ravis de vous recevoir dans notre émission Radio Foot réalisée par Laurent Salerno et bien sûr préparée avec David Finzel. C'est parti.
Une équipe de CCFoot est composée de 4 joueurs déficients visuels et d'un gardien de but voyant qui oriente les défenseurs. Un guide placé derrière la cage de but adverse dirige son équipe en tapant sur le poteau avec une pierre. Les joueurs localisent le ballon grâce au son des grelots qui sont à l'intérieur, grâce aussi aux indications de leur entraîneur sur la touche.
Ils leur disent où est le ballon, s'ils en sont loin. Tourne à droite, à gauche, cours. Il y a un joueur devant toi, recule. C'est en criant comme ça que ça se passe.
Jimmy Just Augustine, 24 ans, est le capitaine du Cator Blind Football Club. Il a retrouvé le plaisir du foot qu'il pensait avoir perdu à jamais.
Quand j'ai perdu la vue après une infection des yeux, je ne pensais pas rejouer au foot un jour. Mais maintenant, je joue comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, comme n'importe qui. C'est comme si on n'était pas déficient visuel. On arrive à contrôler le ballon, à tirer et à marquer des buts. Avec tous les joueurs, on est devenus amis. On est comme des frères.
Et oui, le CCFoot, c'est avant tout du foot, c'est donc universel. Extrait d'un reportage diffusé sur RFI dans notre émission Mondial Sport il y a quelques semaines à peine, réalisé au Soudan du Sud par Florence Mieto. Le CCFoot représentera le football lors des prochains Jeux Paralympiques. Rendez-vous dans un an à Paris. C'est à cette occasion que nous vous recevons, Ivan Wanji. Vous y serez pour ce tournoi de CCFoot au pied de la Tour Eiffel avec le maillot bleu, c'est le programme, si tout va bien.
Effectivement, si tout va bien, je ferai partie de l'équipe. Donc il y aura les sélections qui seront communiquées dans quelques mois et j'espère faire partie du groupe. Donc je suis dans l'équipe de France depuis 2010 et ça va être une grosse échéance, une échéance très importante sur le terrain faire de la performance et aussi montrer au grand public que le CCFoot existe. Et il y a tellement d'enjeux derrière cette compétition, au niveau social, au niveau sportif, au niveau de l'inclusion, et changer le regard aussi sur l'humain, sur la différence. Et waouh, une énorme compétition chez nous, face aux meilleurs adversaires du circuit, face aux meilleures équipes du circuit CCFoot, quoi de plus beau à Paris?
Oui, on sent déjà les frissons. Un an avant, ils sont déjà bien présents. On a entendu ce reportage
au Soudan
du Sud.
Il est magique, votre reportage. Sincèrement, il est...
Alors, il faut l'écouter en intégralité dans le replay, dans les podcasts de Mondial Sport. Et on félicite notre correspondante Florence Mietto. Vous êtes née en Afrique, au Cameroun, à Douala. On va parler un petit peu de votre histoire. Vous jouez pour l'équipe de France, mais vous êtes originaire du Cameroun. Vous n'êtes pas né non-voyant. Vous l'êtes devenu peu avant vos 10 ans, c'est cela?
C'est ça. Donc, j'ai un frère jumeau qui s'appelle Yvon. Moi, je m'appelle Yvan. On a grandi... Donc, lorsque nous sommes nés, nous étions prématurés. On a grandi en étant myope, et à l'âge de 9 ans et demi, j'ai eu un décollement de la rétine d'un coup. Donc, je suis devenu non-voyant. Et à la différence de beaucoup en Afrique, moi, j'ai eu l'opportunité de venir en France parce que mes parents avaient des moyens pour me faire venir. Et du coup, j'ai été dans une école spécialisée où j'ai appris à lire en braille et j'ai appris à découvrir mon handicap. Et avant de perdre la vue, je ne connaissais pas du tout le handicap. Et c'est en ça que je trouve que votre reportage est génial, parce que ça prouve que le football dépasse toute frontière, dépasse tout obstacle. Et quand j'entends ce jeune qui dit « je me vois en Cristiano ou en Messi », mais ça veut dire qu'il a affronté son handicap et il est allé au-delà. Et comment on peut se plaindre derrière ça? Comment on peut se plaindre? Comment on peut en vouloir à la vie? Non, ça fait partie de la vie, et juste prendre ce qui nous arrive et le voir positivement.
Et le football a été donc une aide dans ce cheminement. Vous le connaissiez, j'imagine, comme tout bon Camerounais, si je puis dire. Vous étiez déjà fou de foot.
Ouais.
Et puis, vous le pratiquiez. Et
oui.
Puis, vous avez modifié légèrement votre pratique du football.
C'est ça. C'est-à-dire qu'avant de perdre la vue, je jouais au foot avec mes amis, effectivement, à Douala. Et après l'avoir perdu, donc, on va dire de l'âge de 9 ans et demi à l'âge de 13 ans, j'étais plus dans la scolarité, dans la reconstruction, apprendre à se déplacer avec une canne, apprendre à lire en braille. Donc, je me suis formé sur mon handicap dans cette école. Et à la préadolescence, j'ai voulu faire du sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le CCFoot, parce que je ne savais pas que le football était adapté pour les mâles et pour les non-voyants. Je n'avais jamais côtoyé avant le déficient visuel. Et ça a été une vraie découverte, une vraie passion. Et moi, ce que j'aime dans le CCFoot, c'est que déjà, on se plaint très peu, voire pas du tout. Et c'est ce que beaucoup de voyants, d'ailleurs, remarquent quand ils viennent nous voir jouer. Et puis, on va de l'avant, on ne se plaint pas. Et c'est une petite famille, il y a une vraie solidarité sur le terrain. On n'est peut-être pas tous amis en dehors, mais sur le terrain, il y a un réel lien. Il y a une vraie proximité les uns avec les autres. Il y a une vraie tolérance. Et alors, c'est ce que j'aime dans le CCFoot.
Alors, dans le reportage dont nous avons diffusé un extrait, on entend les grands principes du CCFoot. Vous êtes venu avec un objet très particulier. On est ravis de pouvoir le faire découvrir à l'antenne. C'est un ballon de CCFoot. Et ce ballon, il émet du son, car c'est très important pour vous d'avoir des repères sonores sur le terrain.
Effectivement. Donc dans le ballon, il y a des gros lots. C'est un ballon qui est plus petit qu'un ballon de foot classique, un peu plus dur. Et comme on ne voit pas, donc c'est la manière essentielle pour qu'on puisse le repérer sur le terrain. Donc un ballon de CCFoot est toujours... il est très peu en l'air, parce qu'en l'air, on l'entend moins bien. Et 99% du temps, le CCFoot se joue toujours à ras de terre. Les passes se font toujours à ras de terre. Il y a très peu de passes en l'air. Et effectivement, c'est du foot à 5. Le gardien de but est obligatoirement voyant. Et les joueurs sont obligatoirement malvoyants ou non-voyants.
Les joueurs de champ.
Les joueurs de champ. Et on a tous le bandeau sur les yeux. On joue sur du synthétique parce que lorsqu'on joue sur de l'herbe, l'herbe absorbe le son du ballon, donc on l'entend moins bien. Donc on joue toujours sur cette surface rapide synthétique. Et derrière la cage, il y a quelqu'un qui voit. C'est le guide de l'équipe. Et lorsqu'il parle, il nous donne des indications nous permettant de visualiser la cage adverse.
Ça, c'est un membre du staff qui vous guide donc par sa voix. C'est un autre repère. Vous dites 4 joueurs de champ. Vous jouez à quel poste, vous?
Je joue en attaque. Donc, sur le terrain, il y a très souvent un défenseur. il y a deux joueurs au milieu sur les côtés, donc, et un attaquant. Donc on peut jouer par exemple en losange, donc un derrière, deux sur les côtés et un devant. Et après, les tactiques diffèrent en fonction du niveau technique de chaque joueur. Et lorsqu'on joue la balle, avec Marco, on en parlait avant l'émission, la balle, effectivement, on la garde beaucoup entre les pieds. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu puisses dire ce que tu as observé, puisque je trouve ça vachement intéressant déjà en tant que personne voyante et en tant que joueur de foot aussi. Je trouve très intéressant ce regard que tu as.
C'est vrai que quand on regarde et quand on suit, moi j'aime bien regarder le football dans tout, que ce soit de la salle ou du CC-foot, ils arrivent à conduire le ballon d'une façon que nous on ne connaît pas. C'est-à-dire que lui va garder le ballon entre les jambes, entre les pieds, tout le temps. Moi je fais un plat du pied, lui se sert de son plat du pied pour dribbler, pour accélérer, tout le temps. Et il a une vitesse d'exécution que moi, je vais avoir d'un extérieur du pied ou d'un intérieur. Mais lui garde les ballons et il va se protéger avec ses coudes. Parce que j'ai regardé la saison passée, un championnat d'Europe en Italie, on en a parlé aussi, ils se font rentrer dedans. Il y a beaucoup de chocs, c'est très violent. Alors ça crie beaucoup, par contre, il y a beaucoup de contacts, vraiment. Et la plupart du temps, quand lui part, il écarte les bras pour pas qu'on vienne l'embêter. C'est-à-dire que à la version, j'avais expliqué qu'à l'époque, Rudy Voleur m'explique que si tu vas pas vite, mon garçon, lève les coudes, tu verras que le premier qui va arriver, il va prendre. Et lui, je le vois, hop, il court et dès qu'il peut, qu'il est un peu libre, il se sert et il va sentir à droite ou à gauche si quelqu'un vient le charger. Et après, il est guidé, il y a le guide derrière et lui peut marquer à tout moment. Mais cette façon, moi, je peux essayer de le faire. Bien sûr, je peux essayer de le faire. Mais ça ne va pas ressembler à ce qu'il sait faire. Lui, sait le faire. Moi, je vais devoir m'adapter à ça et je ne sais pas le faire. Ouais. C'est une grande différence.
Dont il raconte et ses comparaisons donc entre ces différentes pratiques du football. Il y a beaucoup de sons donc sur un terrain de CC Foot et vous avez la capacité à bien les séparer pour bien les analyser et pour bien vous repérer. Il y a une capacité à dissocier les différents sons qui vous parviennent.
Oui, absolument, parce que déjà naturellement dans la vie quotidienne on mémorise les voix, on les enregistre, le cerveau les mémorise naturellement et donc sur le terrain les différentes voix, on les repère, que ce soit les coéquipiers ou le coach ou le guide. Et quand on joue donc sur les côtés, comme on ne voit pas les lignes de touche, il y a des barrières pour délimiter le terrain. Comme ça, la balle reste toujours dans l'aire de jeu et les joueurs, quand ils se déplacent, ils ont toujours les repères sur les côtés, le long de la touche. Et on joue sur un terrain qui est plus petit, c'est un terrain de handball. C'est du 40 mètres de long sur 20 mètres de large et on joue toujours dehors. On ne joue jamais en gymnase parce que dedans, ça résonne. Du coup, il y aurait trop de bruit et ce ne serait pas agréable pour les joueurs. Et lorsqu'on joue, d'ailleurs, ça va être un vrai challenge lors des Jeux paralympiques, on va jouer dans un stade qui va être construit, un stade de 13 500 places. Par contre, les spectateurs, c'est comme au tennis. Il va falloir qu'ils fassent du silence pendant le jeu. Ce qui est complexe pour vous, parce que vous voulez forcément, dès qu'il y a un beau geste, applaudir, encourager. Mais s'il y a du bruit, ça masque le son du ballon et ça masque ce qu'on se dit. Parce que comme on ne se voit pas sur le terrain, on communique énormément. J'ai perdu, passé. On se transmet des codes comme ça. Tous les coéquipiers savent ce qui se passe et comprennent la situation de jeu.
Yvan Wanji, Hervé Penaud a une question.
Oui, très intéressant ça. En plus, je voulais parler justement des dimensions du terrain pour comprendre un peu la manière dont ça pouvait se passer. Juste une chose, par rapport, on parle des chocs qu'il peut y avoir. Alors là, j'ai bien compris qu'il était d'origine camerounaise, il n'y avait pas de doute. S'il met les coudes, ça, Rigobert Song devrait être très content, et mon Kala, tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas un Camerounais, par principe. Et deuxième chose, est-ce qu'il existe des cartons rouges? Est-ce qu'il y a des fautes qui entraînent donc des expulsions?
Alors, il existe des cartons rouges, c'est vrai que c'est très rare. Et je dirais aussi la force du CC Foot, j'en parlais avec un ami il y a quelques semaines, c'est que les arbitres sont beaucoup dans la pédagogie et expliquent énormément. Il y a beaucoup d'interactions avec les joueurs, donc il peut y avoir des cartons jaunes, c'est très rare. Et des cartons rouges, c'est encore plus rare. Un carton rouge va être brandi quand il y aura une réelle faute intentionnelle, une vraie bousculade par exemple, ou une insulte. Si un joueur insulte, il va être sanctionné avec un carton rouge. Mais c'est vrai que dans le CC Foot, il y a très, très, très peu de cartons.
Donc, il y a aussi un état d'esprit.
Ça fait
écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur peut-être la solidarité et peut-être un état d'esprit, aussi le respect du public. C'est aussi au-delà des techniques et du matériel et des sons, il y a aussi un état d'esprit propre au CC Foot.
Oui, et effectivement, c'est vraiment ce qui me plaît dans la pratique parce que alors c'est bien de marquer, de gagner, mais moi, ce que j'aime dans le CC Foot, c'est vraiment ça, cette solidarité, cet état d'esprit, vraiment, et aller au-delà des résultats, aller au-delà du fait de gagner ou pas. Et moi, ce qui me plaît aussi dans le CC Foot, c'est qu'il y a toutes les trajectoires. J'ai des coéquipiers qui n'ont jamais vu qui sont nés non-voyants. Il y en a qui ont perdu la vue, mais on se retrouve tous autour du ballon. Les gardiens sont voyants, les arbitres sont voyants. Donc, c'est vraiment le sport paralympique qui regroupe toute la mixité, handicap ou pas handicap. Et il faut savoir aussi que le cécifoot est né au Brésil, donc ceci comme cécité. Quand on a une cécité, ça veut dire qu'on est malvoyant ou non-voyant, d'où la contraction cécifoot. La pratique est née au Brésil il y a à peu près un siècle. Ensuite, la pratique s'est développée notamment en Espagne, en Argentine, en Europe énormément, en France, en Angleterre, en Italie, en Asie aussi. Et ça se développe beaucoup en Afrique. Et ça me touche particulièrement, déjà parce que je suis d'origine africaine, mais parce que c'est une vraie lueur d'espoir pour les déficients visuels là-bas, qui n'ont peut-être pas l'opportunité d'aller à l'école, qui n'ont pas forcément des outils adaptés. Pour lire en braille notamment, bah, ils ont de plus en plus l'occasion de jouer au foot et c'est déjà un réel plus, notamment sur ce continent.
Oui, quand on sait le pouvoir du football, et notamment au Cameroun, Hervé Penaud.
Oui, absolument, hein. On sait que ça peut aider. Si je ne m'abuse, c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique en cécifoot, si je veux pas dire.
Non, c'est le Maroc.
C'est le Maroc, ah oui, c'est exact, c'est le Maroc.
Et le Brésil est intouchable au niveau paralympique.
Oui, alors, au niveau paralympique, oui, le Brésil, le cécifoot est aux Jeux paralympiques depuis 2004 et ils ont gagné à chaque fois. Et on a perdu contre eux en 2012 à Londres et à chaque fois, ils ont gagné jusqu'en 24, hein, mais on sait qu'en 24...
Exactement,
ce sera votre France 98 à vous.
Oui, et effectivement, par rapport à l'Afrique, ça se développe. Donc, c'est la femme du roi du Maroc qui a beaucoup développé ça parce qu'elle a toujours soutenu le handicap visuel. Et donc, au Maroc, ils ont une très, très belle équipe qui a d'ailleurs fait médaille de bronze lors des Jeux paralympiques à Tokyo. C'est très développé là-bas et aussi beaucoup au Cameroun, ça se développe. Aussi en Côte d'Ivoire, au Mali. Malheureusement, là, on avait la Coupe du Monde en Angleterre, là, il y a quelques jours. Et malheureusement, il y avait un pays qui manquait à l'appel, le Mali, parce qu'ils n'ont pas eu les visas, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers. On devait jouer contre eux et ça m'a attristé parce que ça montre encore le niveau du handicap, notamment en Afrique. Et c'est des sportifs. Ce n'est pas normal qu'ils ne puissent pas se rendre dans une compétition. Ils représentent leur nation. C'est des joueurs de foot et ce n'est pas normal qu'on soit encore confronté à ça en 2023.
Alors vous dites justement, vous êtes des sportifs. Quel est votre quotidien? Quelle est votre situation? Déjà, j'imagine qu'on s'entraîne avec un club. Oui. Donc vous jouez en région parisienne. Vous habitez en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et vous jouez dans un autre département de la région parisienne, dans le Val-de-Marne.
Oui, parce qu'à la différence du foot valide, il n'y a pas de club de cécifoot dans toutes les villes et dans tous les départements en France. Donc moi, je joue pour le club de Saint-Mandé. Donc Saint-Mandé, c'est la première ville qui a développé le cécifoot en France par l'intermédiaire d'un non-voyant qui est toujours président du club. Et quand il a demandé au maire, il y a 40 ans, de développer le cécifoot, le maire l'a accompagné. Donc il y a 10 clubs en France de cécifoot. Il y a 3 clubs en région parisienne, à Bondy, à Saint-Mandé et dans Paris. Il y a un club dans Paris. Il y a d'autres clubs en France, à Toulouse, à Nantes. Ça se développe de plus en plus.
À partir de quel âge on peut débuter le cécifoot? Est-ce que les jeunes y ont accès? Est-ce que c'est compliqué?
C'est une excellente question. Alors, on essaie de développer des académies notamment et de former, déjà informer les déficients visuels que le cécifoot existe parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas que la pratique existe. D'où l'importance aussi de l'émission d'aujourd'hui et je vous remercie parce que ça va forcément toucher des déficients visuels de près ou de loin. Et on les forme de plus en plus, mais effectivement, on manque encore de jeunes. Et comme il n'y a pas suffisamment de déficients visuels, on peut démarrer en compétition officiellement à l'âge de 15 ans. D'accord. Avant 15 ans, on ne peut pas démarrer, mais à partir de 15 ans. Moi, j'ai démarré à l'âge de 15 ans, mais du coup, j'étais confronté à des adultes. Mais il n'y a pas des catégories comme chez les voyants, parce qu'on n'est pas assez nombreux.
Mais du coup, le problème, ce n'est pas tant que les jeunes n'y ont pas accès, c'est qu'il n'y a pas l'information qui circule pour leur expliquer qu'il y a cette possibilité-là? Alors, les écoles, par exemple ou...
Oui, il y a ça, le fait qu'ils n'aient pas accès à l'information. Et aussi, malheureusement, il n'y a pas de club dans toutes les villes de France. Donc, il y a par exemple des déficients. Il y a un déficient visuel qui m'a contacté, un non-voyant qui habite à Grenoble. Il a envie de faire du cécifoot, mais malheureusement, il n'y a pas de club à proximité. Donc, il y a aussi la difficulté géographique et le fait qu'il n'y ait pas de terrain partout.
Et j'imagine que vous appelez aussi... les voyants, du coup, à occuper le poste de gardien de but, parce que c'est aussi le cécifoot, un trait d'union donc entre des athlètes, des para-athlètes et des athlètes, entre guillemets, valides, donc en l'occurrence des athlètes voyants. Et ce trait d'union, il se poursuit parfois avec des joueurs de foot à 11, entre guillemets, le foot le plus connu, le plus classique pour le grand public. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer contre des joueurs de foot classique? Est-ce que vous avez pu comparer vos techniques, vos approches, un peu dans la lignée de ce que racontait Marc Libra tout à l'heure?
Oui, alors c'est vrai, on me demande souvent, mais comment on devient gardien en CCFoot? Souvent, Jacques, c'est d'abord une histoire d'amitié, c'est du bouche à oreille. Par exemple, les deux gardiens qu'on a au club, c'est deux amis à moi au départ. Et quand j'aurais proposé de venir au club, ils ne connaissaient pas du tout. Et c'est deux jeunes qui s'impliquent depuis plusieurs années et qui ont arrêté complètement de jouer en foot à 11. Et parce qu'ils disent, voilà, déjà qu'ils prennent du plaisir avec nous. Et puis, c'est une vraie aventure humaine aussi. Et effectivement, en parallèle du CCFoot, il y a aussi ce qu'on appelle des actions de sensibilisation. Donc, il y a beaucoup d'interventions dans les écoles, avec les enfants notamment, parce que on peut transmettre des valeurs aussi à la jeunesse et transmettre aussi la tolérance. Plus ils verront de personnes en situation de handicap, plus ça sera normal pour eux. Et aussi beaucoup d'interventions dans les clubs de foot professionnels, dans les clubs amateurs. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de jouer avec différents joueurs de foot. Et il y a une appréhension au départ, parce qu'ils ont parfois peur de rentrer dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ils ont peur parfois des duels. Ils ont peur d'aller chercher le ballon, mais quand ils l'ont entre les pieds, ils sont à l'aise. La technique, ils l'ont pour beaucoup, mais c'est plus le fait de se déplacer dans l'espace sans avoir de repères, ou très peu, eux aussi. Le CCFoot, c'est aussi faire confiance à l'autre. Quand le guide est derrière la cage adverse et qu'il me dit « Yvan, t'es à 8 mètres du but », je ne réfléchis pas. Naturellement, je vais lui faire confiance. Mais une personne voyante, quand elle met le bandeau, quand vous allez lui dire « Avance, fais 3 pas et puis t'auras le ballon devant toi », ce n'est pas naturel de faire confiance à l'autre. Et c'est des repères différents.
Quel est le rapport qu'on a au football en tant que spectateur? Cette fois, vous êtes quelqu'un qui connaît bien le football et son actualité. Je ne parle pas que du CCFoot, mais aussi du football oui, qu'on suit à la télévision. Vous allez dans les stades. Comment est-ce qu'on suit match, le football avec votre handicap, Yvan Wonji?
Alors, très souvent, les déficients visuels vont suivre les matchs à la radio, parce que c'est pratique, parce qu'il n'y a pas d'image, parce que tout est décrit. Ensuite, moi, comme j'ai grandi en étant voyant, j'ai toujours vu les matchs avec ma famille. Donc, j'ai toujours regardé la télévision. Et après avoir perdu la vue, j'ai toujours conservé ce réflexe de regarder les matchs à la télévision. Donc, je regarde beaucoup de matchs à la télévision en écoutant les commentaires. Ensuite, il y a des journalistes qui commentent plus ou moins bien, qui décrivent plus ou moins bien.
C'est pas toi.
C'est pas parce que c'est mon pote, mais David Berger commente extrêmement bien.
Je confirme. Sur Canal Plus.
Ouais, sur Canal, il décrit très bien. Il y en a d'autres qui... Denis Balbir. Ouais, on aime beaucoup, les non-voyants l'aiment beaucoup parce qu'il a le timbre déjà, l'intonation, puis il décrit beaucoup aussi ce qui se passe. Et ensuite, quand je vais au stade, je vais beaucoup au stade avec mon frère jumeau. Au départ, quand on sera en tribune, je vais lui demander des repères. Où est la ligne médiane? Il va me dire la ligne médiane est à 3 mètres sur ma droite, donc je vais visualiser. Ensuite, il va me dire Paris va marquer à gauche et Marseille va marquer à droite.
Ah, voilà.
Heureusement que tu as dit ça. Heureusement que tu as ajouté Marseille, va y avoir
ça allait mal finir. Ça allait mal finir.
Et puis, il va me décrire les actions, les situations de jeu, me permettant de visualiser, de comprendre ce qui se passe devant moi. Et puis, quand on va au stade, on recherche aussi l'ambiance. On va pour l'effervescence et pour côtoyer d'autres personnes et vivre aussi les moments avec les autres.
Donc, la passion du football, du ballon, elle dépasse largement les...
Hugo, je me permets de faire un petit parallèle avec ma carrière. Moi, dans le Vel, c'est là où j'ai joué le plus, je pouvais jouer les yeux fermés.
Le Vel.
Il parle le Vélodrome. Voilà. Le seul et l'unique, excusez-moi. pas la téléphonie, pas les... Non, mais soyons sérieux. Hugo, vous êtes avec des grands aujourd'hui. Hugo, vous êtes avec des professionnels.
Oui, mais notre invité, il penche plus pour Paris.
Oui, non, mais attendez.
Voilà, je vais dévoiler le secret. La question que je voulais vous poser.
Mais vraiment, on arrive à les repères. Quand il dit à 3 mètres ou à 8 mètres, il y a ça. Moi, je vous assure, dans le Vel, je pouvais les yeux fermés, savoir où ça se trouvait. Je pouvais tout visualiser. Et pourtant, je vois. Mais j'étais au courant de tout ce qui se passait. À Toulouse, j'ai joué 2 saisons. Après un an, presque un an et demi, je pouvais visualiser le stade les yeux fermés. Oui. Je pouvais mettre le ballon où je voulais les yeux fermés, je vous assure. Et quand il parle de ça, il y a une chose aussi importante. Donc, on a dit que les gardiens sont voyants. Oui. Il y en a qui peuvent penser qu'ils ne marqueront jamais. Mais il y a beaucoup de buts, en fait.
Ouais, il y a beaucoup de buts.
C'est pas parce qu'eux, ils sont non-voyants avec le gardien voyant qu'il y aura... Ah oui, non, mais c'est sûr, il va tout voir arriver. Non, mais... C'est pas comme ça que ça marche. Ils savent exactement frapper quand il faut extérieur, intérieur, plein. Ils savent tout faire. Les pénalties, les frappes, tout ça, ça se passe. Et pouvait être un gardien voyant et prendre des buts d'un non-voyant.
Oui, exactement. Tu as raison c'est de souligner hyper ça important. Parce que beaucoup pensent l'inverse. Non, pas du tout. Oui. Et le gardien a un handicap. Chez nous, comme en futsal, il n'a que 2 mètres de surface. Il ne peut pas aller c'est au-delà. Vrai. Donc, ce qui est très handicapant pour eux, même en termes de gestuelle. Et quand on arrive à 5-6 mètres du but et qu'on tire... Bah, c'est des tirs à bout portant et ça demande d'avoir des réflexes de gardien de hand. Le gardien de Cécile Foot, c'est plus d'ailleurs un gardien de profil, gardien de handball.
Je voulais rebondir sur ce que disait Marc, c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion, dans le football, il y a beaucoup d'expressions qui sont liées à la vue.
À la vue ouais.
Le fait que les attaquants qui se trouvent les yeux fermés.
La vista,
oui, etc. Et moi, je me souviens du Goloris qui m'avait dit quand à Tottenham, ils avaient changé de stade, un petit peu comme tu disais Marc, qui était passé de White Hart Lane au nouveau stade. Il avait mis un certain temps, plusieurs semaines à se repérer parce qu'il avait des repères visuels pour lui.
Les lumières du stade, tout.
Et qu'à la fin, il n'avait plus besoin de regarder pour se positionner.
On comprend quelque part que l'intelligence de l'athlète, elle dépasse.
Vous vous rendez compte de mon intelligence seulement aujourd'hui.
Simple.
C'est simple. Je vais pas dire ça, Hugo.
Attends, on n'a pas dit non plus ça. Hein. On n'a pas dit ça sur toi.
Incroyable.
Ça mobilise tous les sens et la vue, finalement, je dirais pas qu'elle est pas si importante, mais il y a toute une intelligence, il y a de la richesse aussi du corps humain qui s'exprime via la pratique du cécifoot.
C'est ça, et on se rend compte que la vue qui peut paraître primordiale ou essentielle, bah, le cécifoot est une manière différente de repenser la vie. Et si je peux me permettre, vraiment, c'est un discours qu'il faut que nos auditeurs en Afrique, surtout les familles, entendent. Vos enfants qui sont déficients visuels, déjà, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas un sort, ce n'est pas une mauvaise graine. Non, il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut arrêter de les blâmer. Ça fait partie de la vie. Vous avez un handicap, acceptez-le, travaillez dessus, mais n'en faites pas un complexe. La vie ne s'arrête pas parce que vos enfants, parce que vous-même, vous ne voyez pas. Il y a des activités que vous pouvez faire du sport, écrire, lire, parler, communiquer. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. Et après ma carrière de joueur de cécifoot, j'aimerais énormément retourner en Afrique et faire comme ce que je fais là, aller offrir des ballons, aller communiquer avec des déficients visuels, aller parler avec les familles, parce que très souvent, on a un regard sur l'handicap qui n'est pas le bon, qui n'est pas le vrai. Parce que certes, ils ont un handicap, mais ça reste des êtres humains avec des aptitudes. C'est des humains, point. Et encouragez-les. Parce que quand vous ne les encouragez pas, ils le sentent. Même à la voix, ils vont le sentir. Qu'ils vont être marginalisés, qu'ils vont être mis de côté. Alors que non, ce n'est pas de leur faute. Et ça fait partie d'eux. Acceptez-les comme ils sont.
Eh bien, c'est le pouvoir de la radio dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que le message, il est parfaitement passé parce que parfaitement énoncé. Et forcément, on est très ému.
C'est tout.
Il y a des raisons quand même.
Il y a un peu des raisons.
C'est quand même pas Marc qu'on aurait mis ambassadeur.
Non. Alors moi, on pouvait mettre à Marseille, on peut mettre ambassadeur.
Vieux port. Beach Soccer, il fut un temps. Mais c'est un autre sujet, si vous permettez. Allez, le Beach Soccer, d'accord.
Non, pas du tout. Dernière chose. J'ai joué à Guingamp, par contre, je ne me rappelle pas du stade. Du tout. J'ai joué que 8 mois, mais bon, je me rappelle, je suis même pas
sous
où
les yeux de Noël Le Graët, ça s'oublie pas ça. Yvan Wanji, je ne vous dis pas au revoir et merci tout de suite parce que vous allez rester avec nous pour poursuivre l'émission. Et en attendant, je rappelle que dans un an, ils auront lieu les Jeux Paralympiques à Paris, suivront les Jeux Olympiques et la passion du football se poursuivra à l'occasion de cet événement via le Cécifoot et via votre équipe, notamment l'équipe de France.
Oui, d'ailleurs, effectivement, pardon, je ne l'ai pas dit, mais on revient de la Coupe du Monde. Là. Il y avait 16 équipes au tournoi, donc 15 parce que le Mali n'a pas pu se rendre à la compétition. On a fini 7e, on a perdu en quart de finale contre le Brésil 1-0. Et on prépare donc les Jeux l'année prochaine. Et aux Jeux paralympiques, en cécifoot, il y a 2 poules de 4. Il y a 8 équipes réparties par continent. Et on espère sur ces Jeux aller le plus loin possible. Et je vous encourage vraiment. Tapez cécifoot sur Internet. C-E-C-I-F-2-O-T. Regardez ce que c'est. Regardez comment ça se joue. C'est du 2x15 minutes, mais c'est très intense comme c'est sur un petit terrain. Regardez, partagez autour de vous. Et si je peux donner un coup de main d'une manière ou d'une autre, vous pouvez me retrouver aussi, mais on en reparlera. Je peux, si à mon niveau, je peux aider ou donner des conseils ou témoigner dans des écoles ou ailleurs, en Afrique ou ailleurs, n'hésitez pas.
Le message est passé et vous avez intérêt à faire mieux que la 7e place. Non, on ne vous rattrapera pas autour de cette table. Dans
ah bah 7 sur 8, ouais, j'espère bien.
Allez. Sinon, je peux faire croire à mes coéquipiers, on envoie Marc ou Hervé.
Et là, vous êtes préparés, vous allez peut-être faire 9e sur 8. Mais ça sera...
Allez, on poursuit l'émission Radio Foot.
Asensio, Asensio avec Ruiz, Ruiz qui est entré dans la surface, le retrait de Ruiz, c'est pour Mbappé.
On a beaucoup parlé de la Tour Eiffel et de Paris lors de la première partie de l'émission. Alors, on glisse naturellement vers le PSG qui se révèle régulièrement n'être finalement qu'un château de cartes. Cette année sera-t-elle la bonne ? M'est avis que personne ne se risquera un tel pronostic autour de cette table en 2023. Mais avant de penser Ligue des Champions, Paris passait ce week-end son premier test de niveau Ligue des Champions. Face à Lens, troisième journée de Ligue 1, Lens, le dauphin de la saison passée, bien évidemment. Et le test a été réussi. Premier succès de la saison, 3-1, avec cerise sur le gâteau, le doublé du revenant à certain Kylian Mbappé. C'était sa première titularisation après un nouveau feuilleton estival que nous n'avons pas le temps de rappeler. Il faudra à peu près toute la semaine. Doublé, et les supporters sont contents de leur Kylian. Mbappé, ce jour, il nous fait rêver.
Quand il joue au foot, il est bon. Après, ce qui se passe en dehors du terrain, je sais pas. Moi, je veux des joueurs qui jouent pour le PSG, que ce soit Kylian ou je sais pas qui. Tant qu'ils jouent pour le PSG et qu'ils sont bons, moi, ça me va. Parfait. On a réussi à se débarrasser de quelques parasites. Maintenant, on veut des joueurs 100% concernés. Ah bah oui, moi, bien sûr, je veux qu'il reste le plus longtemps possible. Mais s'il veut partir dans un an au Real de Madrid, bah, qu'il parte maintenant. Que le club touche quelque chose.
Moi j'étais côté Boulogne, ça s'est très très bien passé. De toute façon, un joueur comme lui, il y en a pas. Enfin, il est unique en son genre, donc on va pas cracher dessus. Donc, les autres sont des bons bagarreurs, mais lui il est vraiment différent, il est au-dessus. Sans être non plus, sans faire un match stratosphérique, il a été clinique comme on le connaît, donc vraiment un très très bon joueur.
Des footix, je cite le très objectif Marc Libra, hors antenne, au micro de Christophe Jousset. Victoire signée Mbappé, premier succès pour Luis Enrique. Est-ce que cela revient à une saison enfin lancée, Hervé Penaud ?
En tout cas, une saison qui va certainement être différente si Kylian Mbappé peut être utilisé à partir de septembre. Alors, tant que le mercato n'est pas terminé, bon, on ne va pas trop s'avancer avec cette histoire de feuilleton. Mais ce qui est certain, c'est que ça change tout pour l'équipe. Pourtant, vous avez Dembélé, peut-être Kolo Muani, on va voir un peu ce qui va se passer sur les prochains jours. Et Kylian Mbappé, ce n'est plus la même équipe. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on était parti, on m'avait expliqué un Luis Enrique qui était un spécialiste des passes. Il y en a eu beaucoup, hein, vous allez me dire, contre Lens. Et finalement, là où ils ont été dangereux, c'est dans un jeu de transition rapide en jouant la contre-attaque.
En même temps, avec Mbappé et Dembélé.
Voilà. Et exactement. Donc, vous allez vous retrouver encore avec des joueurs qui ont un profil de contre-attaquant. Hein, et il va falloir utiliser la vitesse
bien,
de Kylian Mbappé.
C'est mal.
Ah, c'est très bien. Ah, bah, c'est très bien ou très mal. Alors, toujours est-il que ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser les armes que vous pouvez avoir. Et évidemment que s'il va falloir avoir de la transmission rapide pour pouvoir utiliser à la fois Dembélé et Kylian Mbappé. Mais attention, on est au mois d'août. Je me souviens que l'année dernière, au mois d'août, c'était aussi tout feu, tout flamme. On nous expliquait que tout était incroyable avec Galtier.
Il préparait la Coupe du Monde.
C'est vrai qu'il préparait la Coupe du Monde. Oui. Bon, il va falloir avoir un petit peu plus de temps. J'ai hâte d'ailleurs de voir cette association entre Kylian Mbappé et Dembélé.
Ousmane Dembélé.
Parce qu'à première vue, je ne sais pas s'ils sont deux joueurs qui sont vraiment... fait l'un pour l'autre d'une certaine manière.
Bah déjà, ils sont déjà assez éloignés sur le terrain, puisque chacun sur une aile. Mais ils se cherchent quand même. Hein.
Ouais, ah non, mais ils vont se chercher. Quand même, hein. Mais Dembélé est un joueur qui aime bien la balle, qui n'est pas toujours très lucide, alors qu'il fait beaucoup, beaucoup de choses, qui est, attention, qui a un potentiel phénoménal, mais qui ne donne pas toujours la balle dans le bon timing. Alors là, malheureusement pour les supporters, quelqu'un comme Lionel Messi, lui, avait cette capacité à trouver juste et vite Kylian Mbappé. Donc, il va falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble, tout simplement. Hein. Ce sont deux joueurs de haut niveau, donc à eux de trouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, vous n'avez plus la même équipe. Là.
Oui, parce qu'on rappelle que fin août, OK, il y avait des bons résultats pour le PSG, mais il y avait le fameux pivot gang. Déjà, Mbappé disait qu'en gros, voilà, ce n'était pas exactement le PSG qu'on lui avait promis. C'est vrai. Avec Paris, on est à l'abri de rien. Mais est-ce que là, il a une animation qui lui convient un peu mieux?
Du moment qu'il est sur le terrain, pour lui, ça lui convient. Après, qu'il marque des buts, ça lui convient. Après, encore une fois, est-ce que Luis Enrique va se déjuger très rapidement? Parce que, comme le dit Hervé très justement, faire 858 passes, Mbappé, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il veut une chose, c'est les 30 derniers mètres, on lui passe le ballon, il accélère, il va au bout. Donc, on va voir ce qui va se passer. Je suis assez d'accord. Dembélé, pour moi, est un joueur exceptionnel. Mais il y a des moments où, que ce soit Toulouse ou ce week-end, il y a des moments où ses crochets ne passent pas. Il ne passe pas, il n'y arrive pas. Il n'est pas dans le bon tempo. Pour moi, des fois, il confond vitesse et précipitation. Attention, il est talentueux. Mais il faut que ça fonctionne. Et Asensio qui marque ce but, il a vraiment de la chance parce qu'il a un ballon en première et une frappe en seconde. Parce qu'autrement, ils ne vont pas le faire jouer. Mais on va retomber dans ce qui s'est passé la saison passée. C'est qu'à un moment donné, on va dire ben non, mais Neymar et Mbappé, ils ne jouent pas avec lui. Messi joue avec Neymar, c'est son ami. Il ne faut pas qu'on arrive dans ce genre de choses parce qu'il joue à trois devant. Il faut que les trois y participent. Et il faut le faire jouer parce qu'Asensio, il a une occasion, il l'a mis. Et l'autre, c'est une frappe. Mais autrement, ils ne le font pas jouer. Paganelli, très justement, a dit ça serait bien qu'Asensio, on puisse le trouver et le faire jouer. Parce qu'autrement, ça va être. Alors, si c'est Colomboigny, ben là, c'est une partie de l'équipe de France. Ça sera différent. Mais en tout cas, du moment où Mbappé est sur le terrain, on peut considérer que Paris peut être champion et faire la différence à tout moment parce qu'il est stratosphérique, même si pour moi, il n'a pas été forcément très bon. En tout cas, Paris peut être champion avec Mbappé.
Oui, bon, le championnat de France, c'est pas exactement ce qui nous tient en haleine en ce qui concerne Paris. Bruno Constant, ce PSG New Look qui gagne après un troisième match. On a changé beaucoup de joueurs, mais a priori, des problèmes vont peut-être persister. C'est tôt pour se prononcer, évidemment.
On est très tôt dans la saison. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas un grand RC Lens. En tout cas, ce n'est pas le RC Lens de la saison passée, qui était explosif, qui avait beaucoup de vivacité, je trouve, au milieu de terrain. Là, il y en avait beaucoup moins. C'est très passif dans la circulation. Moi, j'ai surtout vu que Luis Enrique, il avait essayé de mettre Mbappé dans les meilleures conditions, puisque quand ils sont en phase de possession, on a Vitinha qui est totalement sur la ligne de couloir gauche et Mbappé est dans l'axe. Il était associé quasiment à Asensio, ce qui permettait à Asensio de décrocher. Donc, on voit que Luis Enrique s'adapte à tout ça. Mais après, sur ce match-là, moi, ce qui ne m'a pas émerveillé ou bluffé, ce n'est pas Mbappé ou Dembélé. Au contraire, c'est le milieu de terrain. Moi, j'ai adoré Ugarte au milieu de terrain, qui a fait un match sensationnel, qui est peut-être un joueur que le PSG n'a pas eu depuis très très longtemps, peut-être depuis Thiago Motta, mais ce n'était pas tout à fait le même type de joueur. Mais c'est quelqu'un qui fait le sale boulot, qui aime bien faire le sale boulot, qui le fait bien, et puis surtout qui fait du bien à cette équipe. Il apporte de la sécurité défensive, et puis se projette aussi vers l'avant. Donc, c'était ça, en fait, la clé pour moi d'avoir un bon PSG, c'est d'avoir un milieu de terrain cohérent, et qui équilibre toute l'équipe.
Mais il l'équilibre parce que je pense que collectivement, ils ne jouent pas tout à fait de la même manière. L'année dernière, il y avait trois stars, donc ça bossait assez peu. Et alors, autant dire qu'après, vous êtes milieu de terrain dans une équipe où devant, ça ne travaille pas, bah, vous êtes en difficulté, quel que soit où garder ou pas où garder, de toute façon. Donc aujourd'hui, vous avez visiblement... Alors, il y aura toujours Kylian Mbappé, ça ne vous fera pas faire des efforts monstrueux, hein, il ne va pas changer du jour au lendemain. En revanche, Dembélé est un joueur qui bosse pas mal. Il n'a pas peur de faire des efforts. Ramos, etc., c'est à peu près le même profil. Il sait pourquoi il est là, donc il sait aussi qu'il doit faire les efforts. Oui. Donc, ça veut dire que même le milieu de terrain, je trouve, est plus protégé qu'avant. Et comme là, il joue un peu plus en bloc, donc c'était plus, je dis pas plus simple, mais un peu plus quand même que les milieux de terrain des années précédentes.
Yvan Wanji, votre club de cœur, vous le sentez bien pour cette année?
Un peu comme Hervé, je trouve que c'est une équipe qui est certes meilleure que l'année dernière, plus compacte, mais paradoxalement, après ce match contre Lens, j'ai pas été plus convaincu que ça. Alors certes, Mbappé a marqué, j'ai beaucoup confiance en Asensio, un joueur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est sous-coté, mais j'ai pas été plus rassuré que ça. C'est vrai que Lens, comme le disait Bruno, Lens, je trouve qu'ils sont vraiment émoussés. Ils n'ont pas réussi vraiment à créer de l'adversité.
Ça se voit dans leur début de saison. Hein, ils galèrent un peu au niveau des résultats.
Et surtout les deuxièmes mi-temps, physiquement, ils
baissent. Mais n'oubliez pas.
Et Donnarumma ne me rassure pas non plus. Enfin, le but à la fin.
Alors, je joue toujours avec lui. Hein.
Saison passée, 3-1 pour le PSG. Abdoul Samed qui sort sur rouge. Là, il sort 52e et ça change le cours du match. Abdoul Samed est encore un joueur hyper, hyper important. Vraiment.
Mais maudit contre le PSG. C'est vrai. Allez, on laisse
Paris, on va monter au classement. Allez voir les vraies équipes qui comptent.
Mais oui.
C'est qui celles qui se partagent la tête
messieurs,
avec, avec
messieurs,
Monaco.
Vous pouvez partir, je vais avec Hugo.
L'été est encore là, direction la Côte d'Azur.
C'est parti pour ce OM Rest. Troisième journée de Ligue 1 Emirates, saison 2023-2024. Allez Jordan, le bon pendant dans la boîte, c'est bien tiré, mais l'OM ne traite pas, l'OM n'a pas le temps, et c'est signé Chancel, Bemba, 1-0 pour l'OM.
Ce n'est pas la Côte d'Azur, Marseille, toutes mes excuses,
merci.
Mais c'est...
voilà, la côte d'Opale peut-être.
La côte méditerranéenne.
Non, la côte d'Or, la côte d'Or.
Moi j'aime bien la côte d'Opale, mais bon c'est un autre débat. L'OM qui gagne 2-0 contre Brest, avec notamment des buts signés de ses internationaux africains Chancel Mbemba pour l'ouverture du score, on l'a entendu, de la tête. Et Ismaïl Assar, le Sénégalais, qui débloque son compteur. Chancel Mbemba,
c'est bien.
Prière FI, Marien Fouet, la saison passée, meilleur joueur africain du championnat, un peu mis au placard en fin de saison dernière, un peu à la surprise générale, et là qui revient bien.
Et en début de saison d'ailleurs, hein, ouais, il avait été un petit peu un petit
oui,
peu
il partait pas pour être...
Non, toutes les faveurs des pronostics.
Ouais, et là, il redevient un homme de base. Et on se demande un peu ce qui s'est passé quand même.
Alors, est-ce qu'il y avait une possibilité de le vendre? On parlait de clubs d'Arabie Saoudite qui étaient possiblement intéressés. Donc, ça faisait partie, à mon avis, du package. Parce qu'il n'y a pas de raison que Chancel Mbemba ne joue pas dans cette équipe-là. Hein. Parce que c'est un gars qui est à la fois solide derrière, meilleur défenseur, et en plus capable de marquer des buts. Donc là, vous avez la totale.
Chancel Mbemba, un autre avis.
Moi aussi, il y a des choses qui m'étonnent dans le début de saison de l'OM. Je ne suis pas totalement convaincu par le 4-4-2 de Marcelino. Je vois très peu d'équipes en Europe qui jouent en 4-4-2 et je trouve que l'équipe elle est très rapidement coupée en deux parce que les profils des joueurs des côtés, Ismaïl Assar, c'est un joueur très offensif, même s'il peut travailler.
Un gros travailleur,
mais il faut voir sur la durée d'une saison. Moi, je ne suis pas sûr que ça tienne. Et je trouve qu'il se retrouve très rapidement isolé au milieu de terrain. Donc là, ça passe parce qu'il n'y a pas une grosse adversité. Ils n'ont pas fait un grand match non plus.
Oh, c'était pas mal. Hein. Ouais, ils les ont gênés quand même. Hein. Marseille a du mal. Hein.
Oui, mais Marseille n'a pas été très très bon.
Ah, je suis d'accord avec toi. Ah, absolument. Après, là, c'est sûr.
On oublie bien que l'un des meilleurs joueurs, c'est aussi le gardien, tout simplement.
Bah, pour une fois, c'est bien, tout le monde le critique. Moi, je suis content pour lui.
C'est ça. Ouais. Non, c'est pas le top gardien.
Il est copain avec Donnarumma. C'est un copain de Donnarumma, c'est sûr.
Il a été sollicité. C'est sûr. C'est pas une victoire.
Il fait un match extraordinaire. Après, moi, pour là, la bonne chose, c'est qu'Ismaïl Assar, il marque. Donc, c'est bon pour la confiance. Tous ceux, en fait, qui ont besoin de confiance, commencent à marquer chacun leur tour. Donc, c'est toujours ça qui va faire du bien. Il faut que maintenant, NDA, il marque aussi. Et qui prennent un peu plus de confiance en lui parce qu'il a une pression énorme sur ses épaules.
Qu'est-ce qui se passe, Marc Libra?
Non, je pense que le petit Marcelino, il connaît pas Marseille. Oui, petit Marcel, Marcelino, petit Marcel. À Marseille, en plus, on a Saint-Marcel et le petit Marcel. Chancel Mbemba doit démarrer, c'est pas Balerdi. Gigot, ce sont des l'ossature importante de la saison passée, donc il doit le mettre. Il se rend compte maintenant, donc c'est bien. En plus, il marque offensivement. Après, il y a des joueurs qui, malheureusement, dans le 4-4-2, on parle d'Ndiaye, on parle de Haritz, c'est difficile pour eux, c'est très difficile. L'OM s'est mis en danger. Si Paul Lopez ne les sauve pas, ils se sont mis en danger. Ils ont subi beaucoup, beaucoup trop d'occasions. Alors là, ça a fonctionné. Mais rappelez-vous, face à Metz, ils mènent 2-0. Ils sont remontés 2-2. Et à la fin, Paul Lopez fait un arrêt. Autrement, alors certes, il a fait une boulette, mais autrement, ils peuvent perdre 3-2.
Alors justement, vous faites allusion au précédent résultat de l'OM. Il y a eu quand même une séquence un peu étrange avec cette victoire, mais une élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Panathinaikos, Metz où vous faites remonter. Bon là, il y a quand même une victoire, clean sheet, pas de but encaissé.
Déjà la première période, on s'ennuie à mourir. Hein. On prend pas de plaisir.
Oui,
et
bon,
sur la seconde période, ça s'enflamme.
Très loin.
Le problème, c'est
on
que
doit prendre des points.
Les deux anciens coachs de l'Olympique de Marseille qui ont décidé de quitter l'Olympique de Marseille, qui n'ont pas été licenciés. Faut le rappeler, les deux ont quitté le club. Mm-hmm. Aujourd'hui, ces entraîneurs là. Ben on se dit, ah mais finalement c'était bien, ouais, mais quand ça jouait à tout va, ça attaquait à tout va, on n'était pas content. Maintenant qu'il attend et il fait jouer comme il peut, je pense qu'il y a un réglage à trouver. Il faut que Marcelino, le petit Marcel, trouve rapidement. Ouais. Parce que ça va être compliqué. Non, mais sérieusement, ça va être compliqué parce que l'élimination en Ligue des Champions face au Pana où tu n'as pas joué, le premier match tu es absent et le deuxième tu as joué une heure, bah, tu t'es arrêté. Il ne faut pas que ça se reproduise parce que peut-être que là, ce week-end, tu as croisé une équipe qui n'a pas été en réussite. Si ça veut aller, peut-être que tu perds 2 ou 3-0. Et là, ce n'est pas la même chose.
D'autant plus qu'à Marseille, on aime les joueurs offensifs et que le recrutement a été porté sur des joueurs offensifs.
Clairement.
Donc, on a la vision optimiste d'un OM qui serait transcendé par ces joueurs offensifs. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas.
Et beaucoup d'internationaux africains. Parmi les anciens clubs de Chancel Mbemba, Newcastle, on est un peu à la traîne. Donc, je n'ai pas vraiment mieux en termes de transition. Je suis désolé.
Give it to Red Card!
Salah pour Darwin Núñez. Oh Núñez, oh Núñez. Deux buts pour faire gagner Liverpool à 10 contre 11.
Boum boum, surtout en fin de match du côté des Reds de Liverpool. Châteauneuf, Newcastle, autre nouveau riche, autre château de cartes. C'était bien l'arrivée des Saoudiens au début pour transfigurer le club du nord de l'Angleterre, les Magpies, Bruno Constant, avec une quatrième place l'année dernière. Et on disait des dépenses intelligentes. Et puis depuis, l'Arabie Saoudite, c'est un championnat qui a attiré des stars à grand renfort de millions.
Et Newcastle, ils vont peut-être acheter Newcastle pour aller faire jouer là-bas.
Voire acheter l'Europe directement et délocaliser la Ligue des Champions. Mais là, Newcastle, c'est plus compliqué en début de saison. Et témoin, cette défaite à domicile contre Liverpool ce week-end, alors que Newcastle menait, Newcastle était en supériorité numérique.
Vous voulez déjà jeter le bébé, l'eau du bain, après trois journées à Newcastle, parce que ça ouais, se passe
ça
pas
y
très
y
bien.
Faire ça,
c'est un beau bébé. Hein,
très honnêtement, ils ont fait une première journée fantastique face à Aston Villa. Tout le monde avait souligné leur match fantastique. Après la deuxième journée, ils jouent à City. Très honnêtement, c'était quand même très compliqué. Ils perdent que d'un but. Et là, très honnêtement, je pense qu'encore aujourd'hui, les supporters de Newcastle, ils se demandent ce qui s'est passé. Parce que clairement, ils jouent à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Ils mènent 1-0, ils font un début de match fantastique. Ils ont plusieurs occasions de les tuer, comme on dit, de tuer le match. Ils touchent le poteau et puis se font prendre bêtement sur deux attaques rapides par Darwin Núñez qui a du mal un peu depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Il a pourtant coûté très cher l'été dernier et qui nous plante deux buts. Lui qui, quand il doit réfléchir un peu, il a toujours un peu de mal, un peu comme Cavani. On le fait souvent les comparaisons avec Cavani. Et là, coup sur coup, il marque deux buts fantastiques. Même Jurgen Klopp avait du mal à comprendre ce qui s'est passé. Et lui, il estimait que c'est sa plus belle victoire depuis qu'il est sur le banc de Liverpool, et même encore plus fort que la victoire contre Barcelone en 2019.
Oui, alors il s'est un petit peu
emballé, on va dire.
Pour l'instant, on est à la troisième journée de Première Ligue. Liverpool est quatrième, City premier.
Gagner à Newcastle, dans l'ambiance de Newcastle, à 10 contre 11 pendant plus d'une heure,
non, mais évidemment,
c'est un exploit énorme.
Vous avez gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, pour la première fois
c'est l'entraîneur de Liverpool. Moi, je crois ce qu'il dit.
Moi, je crois aussi qu'il est un peu comédien de temps en temps. Donc il en rajoute
Il sort aussi d'une saison très difficile. Donc, il y a aussi peut-être la volonté de remobiliser un petit peu. Ce Big Four, donc, je disais, il est clôturé par Liverpool. Il n'y a plus Newcastle pour l'instant. On a Tottenham et West Ham, alors au deuxième et troisième place, de londoniens. Donc, on n'attendait pas forcément. Ouais. Je ne sais pas s'ils resteront très longtemps. Et puis, on a City qui déroule.
Et sans Harry Kane, en plus, Tottenham.
Et sans Harry Kane, avec un nouvel entraîneur, Postecoglou, qui est en train de conquérir tout le public de Tottenham. Personne n'y voyait. West Ham, pareil, qui vont taper Brighton, qui était l'équipe du début de saison.
La saison passée aussi.
Voilà, qui est un gros bloc défensif, vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence. Et puis City, alors ils se sont imposés aussi dans la douleur. C'était une journée assez mouvementée pour tous les gros.
Mais là, ça fait 3 sur 3.
Et sans Pep Guardiola sur le banc, qui a été opéré. Mais clairement, on sent qu'ils sont un cran au-dessus. Il y a tellement de ressources, à la fois dans le 11 et sur le banc. Quand c'est pas Haaland qui marque, c'est Rodri le sauveur, comme en finale de Ligue des Champions. Moi, je les vois encore au-dessus cette saison.
Hervé Penaud.
Oui, et puis je voulais juste pointer quand même la qualité des deux milieux défensifs, offensifs, entre guillemets, de Tottenham, évidemment. Yves Bissouma et Pape Matar Sarr, qui sont titulaires depuis le début de saison. Et notamment Bissouma, qui fait un énorme
super.
Début de
saison. C'est un énorme super joueur déjà.
De toute façon, j'ai toujours aimé, moi, ce joueur-là. Ouais. Parce qu'il a un gros, gros potentiel. On parle de joueur à potentiel. Il faut après qu'il y ait un peu plus de rigueur, surtout dans ce type de position.
L'aigle
et
techniquement,
et
le lion.
Et Pape Matar Sarr, on l'attendait. C'est un jeune joueur, 22 ans. C'est un joueur qui, l'année dernière, a eu un peu plus de mal. Il fallait qu'il se fasse à la Première Ligue. Ouais. J'ai hâte de voir la suite.
Merci.
Et
messieurs,
Yvan
Wanji,
hein,
oui,
c'est pas faux.
Arsenal
c'est Arsenal votre club ?
Bon, non, c'est Liverpool, mais mais dans la rivalité City-Arsenal.
Alors, vous vous êtes fait plaisir ce week-end. Yvan Wanji, vous avez été notre invité exceptionnel, international français de CCFoot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En CCFoot aussi, on a deux équipes, c'est ça ? On double tous les postes sur le banc de touche, comme à Manchester City. On vous suivra dans un an à l'occasion des Jeux Paralympiques. Radio Foot revient demain.